Marilyn Lassagne, venez nous rejoindre sur scène pour les questions du public. Donc vous allez pouvoir poser donc vos questions pour les deux conférences que nous venons d'entendre. Avons-nous déjà des questions? Des micros vont circuler.
Oui, Daniel Marcelli.
Bonjour, monsieur.
Merci. Écoutez, j'aimerais bien poser quelques questions aux deux orateurs et puis faire une ou deux remarques. Alors, à Madame Lassagne, je remercie l'un et l'autre de la richesse de leur communication et de leur clarté. Et à Madame Lassagne, je voudrais, à propos du fait que les parents mettent, une minorité de parents mettent des interdits au niveau des écrans, etc., elle a beaucoup souligné que les adolescents étaient capables de contourner les interdits et malgré tout de le faire. Alors, c'est tout à fait vrai, mais je voudrais souligner quelque chose. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose quand un adolescent contourne des interdits parentaux pour aller voir quelque chose dont il sait que c'est interdit, et un adolescent qui va voir les choses alors qu'il ne sait même pas que c'est interdit ou que ce n'est pas bien d'aller voir les choses. Donc je pense que c'est très important que les parents mettent des interdits, et de ce point de vue-là, vous avez souligné qu'ils sont minoritaires, et c'est très important que les adolescents déploient leur intelligence pour contourner les interdits des parents. Mais c'est un des paradoxes soulignés par notre philosophe, ça serait une erreur que de lever les interdits. Donc je voulais vous demander votre avis là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est l'adolescent gay que vous avez été amené à suivre, qui donc vivait avec un autre adolescent, garçon lui, et il se disait gay. Alors je voudrais dire cette chose-là. Vous avez accueilli un être humain génétiquement XX et morphologiquement femelle et qui revendiquait d'être genré trans masculin, ressentant une attirance androphile et hétérosexuelle. Voilà ce qu'était son identité sexuelle qu'il ne pouvait condenser comme une question de repérage, comme le dit M. Benmansour, qui ne pouvait condenser qu'en une entité gay. Nous sommes deux gays, deux garçons gays, qui était sa manière de condenser. Car notre problème de l'identité, c'est qu'on a absolument besoin qu'elle soit une mosaïque unifiée et pas un arc-en-ciel éclaté. Et ça, c'est la souffrance dans laquelle on est quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Car on patauge là-dedans. Donc je voulais vous livrer l'identité sexuelle de ce garçon. De ce garçon, ben oui, c'était parce qu'il veut être appelé garçon. Quant à monsieur Benmansour, je voudrais faire deux remarques et une question. Il a dit très brièvement qu'effectivement, on ne parlait pas trop des différences de génération, mais c'est un problème essentiel. Je pense que l'irruption de la sexualité à l'adolescence, de la sexualité active à l'adolescence, pose la question de la différence des générations. Et c'est pour ça que les parents sont de loin les plus mal placés pour ne cesser de parler de sexe avec leurs adolescents. Et je pense que notre société, trop souvent, brouille la différence des générations. Je souhaiterais que M. Benmansour, peut-être, poursuive cela. Une autre remarque concernant, et celle-là c'est très important, le sexuel de la planche. Alors je suis d'accord avec Kelly, mais il y a un problème que j'ai peu à peu développé en tant que pédopsychiatre et qu'on ne perçoit pas de manière suffisante, y compris la planche dans le sexuel. Il faut bien comprendre que pour l'enfant, le petit enfant, il perçoit les genres. Garçon-fille qui est un genre et pas un sexe. Garçon-fille, c'est un genre, pas un sexe. Or, l'enfant a connaissance de son genre, il sait qu'il est un garçon ou une fille, avant même qu'il a connaissance de ce que nous, on appelle la différence des sexes et que lui perçoit à l'âge de 3 ans environ que tous les sexes ne sont pas pareils. Donc, la connaissance du genre précède la reconnaissance du fait que tous les sexes ne sont pas pareils et de la reconnaissance de la différence des sexes. Et c'est peut-être pour ça que l'identification dans le genre a une puissance identificatoire plus grande que celle du sexe. Et c'est tout le problème actuellement, et je pense que ça n'a pas encore été bien compris dans la... Donc, je voulais éventuellement avoir votre avis là-dessus. Et je voulais... Alors, je suis tout à fait sensible à ce que vous avez dit concernant les paradoxes et de la sexualité et le fait que les adolescents sont très puissamment sensibles aux paradoxes de notre société. Quand elle dit la chose et son contraire, les adolescents s'y précipitent comme étant justement une des failles cognitives des adultes et de la société. Et donc, c'est effectivement quelque chose de très important. Enfin, je terminerai parce que vous avez parlé des adultes. Je crois qu'effectivement, à l'adolescence, il y a un renversement. Les enfants n'ont cessé d'être curieux de ce qui se passait dans la chambre parentale et de regarder par le trou de la serrure pour savoir qu'est-ce qui se passait dans la sexualité des parents. Et d'un seul coup, quand les parents ont des jeunes qui deviennent adolescents, ils n'ont de cesse de regarder dans le trou de la serrure pour savoir ce que font leurs adolescents dans leur chambre, avec une sorte d'inversion de la curiosité. Et peut-être d'inversion de l'excitation, parce que les adultes, et ça c'est très dangereux, quand les adultes deviennent aussi excités que leurs adolescents sur la sexualité des adolescents. Et en tant que pédopsychiatre, dans les familles dysfonctionnelles, c'est ce que je voyais très couramment. Je vais terminer par l'histoire de la sexualité, et je voudrais à M. Benmansour et d'ailleurs à Mme Latine rappeler quand même que la vie est une maladie sexuellement transmissible à échéance fatale. C'est ça le drame de la vie. Elle s'attrape avec le sexe et on en meurt. C'est quand même une angoisse existentielle majeure.
Merci Daniel Martin.
Je vous remercie.
Alors je vais juste reprendre deux ou trois petites choses parce que je vous rejoins beaucoup. D'abord, effectivement, je pense que c'est pas du tout le rôle des parents de parler de sexualité à ses enfants. Même à l'adolescence, d'abord c'est impossible, parce que pour des tas de raisons, une première raison c'est que les parents ne sont pas formés à ça, les parents ne peuvent parler de sexualité qu'à partir de leur propre sexualité, et qu'en plus, parler de sexualité à ses enfants c'est faire un petit peu intrusion dans la construction de son adolescent, donc c'est effectivement pas du tout une bonne chose, donc c'est même une question qu'on ne devrait pas soulever. Ensuite, poser des limites, bien sûr. Hein. Du coup, dans la posture éducative, Becker a identifié qu'il y avait quatre postures. Hein. Il y avait la posture d'autorité qui interdit strictement, mais ne laisse aucune place au dialogue et à la discussion. La posture de l'indifférence qui est laisser faire. Voilà. Et la posture de la surprotection, c'est-à-dire celle qui consiste à essayer d'empêcher les comportements à risque, par exemple. Or, la posture éducative qui est la plus constructive, c'est la posture démocratique. Alors, qu'est-ce que c'est la posture démocratique en matière d'éducation à la sexualité ? Ben, en fait, c'est dialoguer, comme le disait Françoise Dolto, réfléchir au vécu sexuel, à la diversité des vécus sexuels. C'est-à-dire montrer tout simplement et faire ressentir aux adolescents combien chaque vécu sexuel est individuel. Chaque vécu sexuel se vit, entre guillemets, dans toutes les dimensions en même temps, dans la dimension des réactions sexuelles, du corps, la dimension de la santé mentale, physique, la dimension des émotions, de l'identité, des attirances, la dimension du désir, la dimension du plaisir. La dimension peut-être amoureuse, mais aussi la dimension des pensées qui interviennent en même temps avec toutes les représentations qui se sont construites et liées à notre culture, mais aussi liées à nos expériences personnelles, la dimension de nos valeurs morales, celle aussi de nos idéaux, et puis bien sûr, tout ça est mis en jeu dans la relation à l'autre, l'interaction à l'autre, et rentre en jeu le sens de l'altérité, la façon de se placer, la place qu'on se donne, celle qu'on donne à l'autre, la façon de communiquer qui fait l'objet d'apprentissage, de séduire aussi. Et en fait, c'est tellement vaste que ça demande un outil multidimensionnel pour aborder toute question de façon intégrative, de manière à ce qu'on ne fournisse pas une réponse simpliste, mais une réponse large, riche, une réponse qui ne soit pas une réponse, mais une réponse qui ouvre sur les possibilités de la diversité des vécus. Et c'est ça l'éducation à la sexualité. C'est une éducation à la sexualité qui, pour le moment, ne s'est pas encore beaucoup développée parce que les moyens ne sont pas à la hauteur pour pouvoir la pratiquer. Donc, on essaye de faire au mieux, c'est-à-dire d'intervenir en surprotection pour prévenir, limiter les risques. Mais ce n'est pas une façon d'accompagner, c'est surtout une fonction, une façon de contenir. En tout cas, ce n'est pas une façon de permettre à chacun de faire son chemin pour découvrir le plaisir. Mais est-ce que justement, ce qui ne resterait pas de tabou dans notre société, ça ne serait pas tout simplement la question du plaisir ?
Il est allumé.
Relativement à votre question sur la différence des générations, mais je crois que ça s'implique. Enfin, vos questions peut-être peuvent s'articuler les unes aux autres. Je crois que actuellement, je pense que c'est un secret pour personne, la différence des générations est effectivement de plus en plus niée, ou en tout cas, ça fait un certain temps qu'elle est mise à mal, je pense, hein, et que peut-être. Peut-être on a appelé indûment un certain nombre de choses, pensée 68arde, etc., etc. En tout cas, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est peut-être une espèce de gommage, de lissage de la différence des générations, puisque plus personne n'assumant d'être un vieux con. Et c'est un peu ça qui a été, au fond, pourquoi est-ce qu'on ne va pas interdire ceci ou cela ? C'est pour ne pas être justement mis au rang de celui qui est has-been, qui est vieux, etc. Bon, et à partir de là, je crois qu'il y a une... C'est ce que dit Laplanche, c'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre enfant et adulte. Et que quand l'adulte parle à l'enfant, il lui parle toujours avec des mots qui sont pris dans sa sexualité d'adulte, dans le vocabulaire que j'utilise. Tous ces mots que j'utilise, que chacun d'entre nous utilise comme adulte, ils sont travaillés par notre vie sexuelle consciente et inconsciente adulte. Or, la vie, si on peut dire sexuelle consciente ou pas, d'enfant, c'est dans une autre logique. Et du coup, l'enfant reçoit, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, l'enfant reçoit le genre avant, mais il le reçoit dans la langue, dans le langage. C'est parce que, justement, il est traversé par ce langage qui le nomme, qui l'identifie, et c'est là-dessus qu'il peut greffer, si on peut dire, ses émois sexuels intimes d'enfant. Et puis, je crois que c'est tout. Enfin, on pourrait discuter. Juste, je rebondis sur ce que vous disiez. Pourquoi est-ce qu'il est difficile... Je finis parce que je... Pourquoi est-ce qu'il est difficile de parler du plaisir ? Parce que précisément, le plaisir adulte et le plaisir enfant et le plaisir adolescent, ce n'est pas la même chose. Je pense à Ferenczi dans La confusion des langues qui fait cette différence entre le plaisir chez les enfants qui est de l'ordre de la tendresse et de la caresse et le plaisir adulte qui commence à l'adolescence, qui est travaillé par l'anéantissement de l'orgasme. Et ce sont deux logiques totalement différentes. L'adolescence, c'est le moment où il est vraiment tiraillé des deux côtés, du côté de cette tendresse caressante et du côté de ce néant qu'implique une sexualité avec orgasme, ce qui n'est pas simple.
Je me permets, puisque vous avez évoqué...
Rapidement, Daniel Martin, parce qu'après on donnera la parole au public.
C'est un point fondamental dans le développement de l'être humain. Vous avez évoqué le fait, en étant d'accord avec moi, que l'enfant construit son genre d'abord. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre qu'à partir de cette construction d'un genre, l'enfant se perçoit dans son corps comme étant dans le corps universel, le corps prototypique, et que la rencontre avec ce que nous appelons la différence des genres, des sexes, je veux dire, mais que l'enfant perçoit comme le fait que tous les corps ne sont pas pareils, pour lui, c'est une blessure, la blessure de la différence des sexes, une blessure dont on ne se remet jamais. Et c'est aussi pour cela que la question du sexe est aussi, je dirais, épidermique chez l'être humain. Parce que c'est la blessure qui arrive au moment où l'enfant choisit de sa position narcissique. Et ça, c'est fondamental. Et ça va être repris à l'adolescence, dans l'autre sens.
Vous souhaitez répondre ?
Je veux juste rajouter une chose, mais je voudrais pas... Je veux juste rajouter une chose, c'est qu'il y avait l'énoncé de l'argument du colloque, il y avait le terme virtuel. Hein. C'est qu'effectivement, on en a peu parlé jusqu'à présent, en tout cas, c'est cette dimension du virtuel qui a été théorisée par Baudrillard, par exemple, et qui est justement une dimension du narcissisme, précisément. C'est que le numérique qui nous fait rentrer de plein pied dans le virtuel, parce que par exemple, quand j'ai un adolescent qui passe, si on peut dire, la nuit avec sa copine, c'est-à-dire le téléphone allumé à côté de son oreiller, je suis sûr que vous avez déjà eu ce type d'expérience, qui discute toute la nuit, ils s'endorment et puis ils se réveillent, ils sont encore là. On est dans une présence quand même qui est de l'ordre du virtuel. Et ce virtuel, c'est quand même un narcissisme. Hein. C'est une réitération du narcissisme. Et c'est ce qui fait que c'est difficile pour eux, précisément, de s'y retrouver. Voilà.
Alors, avons-nous des questions, des réactions dans le public ? Tout à fait, on vous apporte un micro.
Rebonjour, donc toujours Antoine Laillé, psychologue à la Maison des adolescents de Lot-et-Garonne. C'était juste pour vous faire partager un petit souvenir que j'ai partagé avec Florent, qui fait partie des organisateurs. Il y a quelques années, à l'Assemblée nationale, il y avait eu tout un débat sur les crop tops des adolescentes, les tenues républicaines, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ce que j'avais trouvé de formidable, c'est qu'au même moment, j'avais vu ça par voie de presse, il y a eu des manifestations de lycéennes au Royaume-Uni pour l'interdiction des tenues d'uniforme scolaire dans les sex shops. On parle beaucoup des adolescents, de leur sexualité, bon, qu'ils nous en disent ce qu'ils veulent bien nous en dire. On leur reproche souvent dans les consultations de ne pas faire leurs devoirs, mais est-ce que les adultes font leurs devoirs vis-à-vis des adolescents ? Et finalement, bah, dans ces débats à l'Assemblée nationale, ça, je trouve, interroger le regard qu'on peut porter sur les adolescents. Et peut-être qu'au moins ce genre de colloque a le mérite de venir interroger le regard qu'on peut porter sur les adolescents.
Merci pour votre question. Marine Lassagne, Marianne Benmansour. Vous n'avez pas envie de répondre ? Ah si.
Oui, je crois que de toute façon, pour l'instant, le monde des adultes, comme je vous le disais, porte des lunettes, et que les lunettes ne lui permettent de regarder, ce sont des jumelles, donc ne permettent de regarder qu'effectivement un certain nombre de comportements adolescents. Nous avons à prendre de la hauteur, de la largeur, dans notre façon de regarder les adolescents, parce que nous avons à les regarder comme étant des êtres en construction, et c'est comme des êtres en construction que nous devons les accompagner, mais dans toute l'étendue, j'ai envie de dire, des champs dans lesquels on se développe. Et je pense que là, le monde des adultes aujourd'hui, pour moi, c'est mon avis, n'a pas encore mis en place les moyens nécessaires pour le faire. On est au stade de l'intention, de la prise de conscience, de la sensibilisation, mais pas encore au stade des moyens concrets, des moyens financiers, des moyens organisationnels, des moyens humains, de la formation et après des moyens techniques, pédagogiques, etc., etc. Je crois qu'on n'y est pas encore. Alors on pourrait dire, mais oui, mais bon, dans toutes les autres générations passées, les adolescents se sont développés dans la sexualité sans forcément que les adultes les accompagnent. D'accord, c'est vrai. D'un autre côté, ben, si on va dans le sens du processus adolescent, c'est-à-dire grandir, s'individuer, apprendre à réfléchir à soi-même et à poser des choix, Ça peut parfaitement s'accompagner et ça peut s'accompagner dans le champ de la sexualité, sans, justement dans le dialogue et la démocratie, sans être directif à aucun moment, mais en aidant les adolescents à prendre conscience de leurs influences, les influences culturelles, l'influence des pairs, prendre conscience aussi, peut-être apprendre à identifier petit à petit quels sont leurs désirs, et puis ensuite à faire des choix en fonction de ce qui leur semble le mieux pour eux. Voilà. C'est tout un chantier, c'est vaste, c'est grand, mais c'est quelque chose qu'on peut réellement faire si on met les moyens en place.
En fait, vous souhaitiez répondre, c'est pour ça, allez-y.
Non, je...
Alors, vous avez dû éteindre le micro.
Oui. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, je pense que c'est très important de pouvoir changer ce regard sur les adolescents. Et c'est très important, justement, de pouvoir se rencontrer pour pouvoir en parler. Et je me dis quand même que... Un des aspects de ce changement de regard, ça pourrait être d'être assez admiratif vis-à-vis des solutions qu'ils sont obligés de trouver pour répondre à la nature des questions qui leur sont posées. Parce que, au fond, il y a quelque chose, on a parlé de génie adolescent, hein, je crois qu'il y a quelque chose comme ça, enfin c'est dans un tout autre contexte, mais il y a peut-être aussi un génie adolescent pour s'ingénier à trouver des réponses, c'est-à-dire quand même que finalement investir autant les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ils sont d'une certaine manière produits par des adultes au départ, hein, les investir pour pouvoir contourner les règles données par les adultes, leurs parents, les règles qui contraignent leur corps, et de pouvoir trouver des nouvelles dispositions. C'est quelque chose qui doit pouvoir, être exalté, mais en même temps qui doit pouvoir être parlé, discuté, réfléchi avec eux. C'est-à-dire que les encourager à trouver des solutions pour régler les questions que la sexualité leur pose. Que la question des moyens, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait comme moyen, puisque vous savez quand même que la question de la sensibilisation à la vie affective, donc quel est vous connaissez l'intitulé exact, c'est c'est ça. Et voilà, c'est ça, c'est le fameux EVARS, traduit immédiatement en EVARS. Vous rendez compte combien de temps ça prend pour que ça soit mis en place, et toujours quasiment pas mis en place, hein? Je ne crois pas qu'il s'agisse d'énormes moyens, il s'agit juste de pouvoir l'intégrer comme des espaces de parole où il est possible d'envisager cette dimension-là de la vie. Je me souviens très bien, une fois, je faisais cours, et tout d'un coup, paf, on toque à la porte de la classe où je faisais cours, c'est le médecin scolaire qui vient et qui dit deux, trois trucs sur les préservatifs, qui dit où on peut en trouver, et qui dit, et surtout, il faut être attentif à autrui. Fin de l'intervention, au revoir. Bon, vous voyez, la coupure entre la satisfaction du désir sexuel et la prise en compte d'autrui, elle est constante. Et je pense qu'elle va aussi avec ce que disait le professeur Marcelli, c'est-à-dire cette individualisation qui fait qu'on n'est plus dans la norme pesante du groupe qui vous interdit d'avoir une vie sexuelle autre, dans des conditions bien précises, mais on est dans une dimension où la sexualité est coupée de la relation à l'autre, ce qu'elle a tendance pulsionnellement à faire quand même. Hein ?
Et merci. Ah, allez-y, un dernier mot de conclusion.
Oui, si je peux prendre l'exemple de la question du consentement, par exemple. Hein. La question du consentement, elle est très importante, puisque, heureusement, elle émerge là, mais sauf qu'elle est extrêmement complexe. Et elle est tellement complexe, cette question du consentement, que si on la simplifie en oui, c'est oui, non, c'est pas oui, et rien, c'est pas oui non plus, qu'est-ce qu'on donne comme possibilité aux adolescents de mettre ça en application ? Rien du tout. Elle est complexe et il faut l'aborder de façon complexe. Et il faut même l'aborder de façon complexe avec les adolescents. Parce que derrière ça, derrière cette question du consentement, il y a effectivement la relation à l'autre, l'interaction avec l'autre, la rencontre avec l'autre. Et c'est tout ça dont il faut parler.
Et même entre adultes. Merci beaucoup Marine Lassagne et Marianne Benmanceau. Merci à vous deux pour ces propos.